Peut-être que vous avez vu déjà, en tout cas, ce que nous voulions vous montrer. Au fond, vous voyez une série de jeunes gens qui sont fort assistés dans ce petit film, dans des situations de consommation culturelle ou de création, des situations valorisantes, et en même temps, vous voyez bien que ils ont beaucoup de difficultés, très diverses d'ailleurs. Certains parlent très bien, d'autres beaucoup moins bien, d'autres pas du tout. Certains ont ce qu'on appelle des dysmorphies, c'est-à-dire des visages marqués, par exemple, par des déformations dont on se demande si elles sont congénitales ou si elles sont acquises. Certains, au contraire, sont de très beaux garçons ou de très belles jeunes filles. Et au fond, ils ont tous des parcours de vie très difficiles. Et je vais peut-être vous dire maintenant un peu ce qui les rassemble dans cette catégorisation clinique qu'on appelle l'autisme et les troubles apparentés maintenant, ou qu'on appelle encore, si vous regardez la télévision ou si vous lisez les journaux, vous devez entendre parler de l'autisme et des troubles envahissants du développement. Et ce qu'on appelait auparavant, encore un peu maintenant, mais beaucoup moins, autisme et psychose infantile. Alors, c'est un groupe de personnes hétérogènes, et pourtant, ils ont un fond commun. Alors, la description acceptée et même, recommandée, non seulement en France, mais dans tous les pays du monde, pour permettre un dialogue, finalement, entre les familles, les professionnels, les médecins, les éducateurs de tous les pays, et pour comprendre un peu mieux ces troubles, il y a maintenant une définition internationale, et je vais vous la dire en quelques mots. C'est la définition de ce qu'on appelle la classification internationale, la 10e classification internationale, la CIM-10. Et il y a un trépied, finalement, de signes qui sont les suivants. Premièrement, des troubles des interactions sociales. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Des troubles des interactions sociales, des troubles de la communication et des troubles du comportement, des stéréotypies et des intérêts restreints. Les troubles des interactions sociales sont classiquement le repli, la tendance à l'isolement, le manque de réciprocité dans les interactions avec les compagnons d'âge, avec les parents, le défaut d'imitation et toute une série, au fond, de manifestations qui sont communes chez les enfants qui ont un développement normal. À côté de ces troubles des interactions sociales, il y a donc des troubles de la communication verbale et non verbale, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui soit ne parlent pas, soit si elles parlent, ont des écolalies, souvent, commencent à parler avec des écolalies, c'est-à-dire des répétitions de ce qu'ils entendent, et dans ces écolalies, ce sont parfois des répétitions qui n'ont aucun sens, qui sont simplement des répétitions, et parfois sont des répétitions qui ont du sens. Et s'ils parlent bien, eh bien, ils ont souvent des prosodies, des tonalités particulières dans le langage, et ça peut aller d'ailleurs jusqu'à un développement d'un très très bon langage, et souvent avec un caractère un peu précieux, comme vous avez pu voir Arnaud dans le film. Il y a aussi des anomalies de la communication non-verbale, c'est-à-dire des gestes, des mimiques. Ce sont souvent il y a peu de mimiques, il y a peu d'expressions dans le visage. Et il y a souvent des gestes qui peuvent paraître tout à fait curieux quand vous les voyez dans différentes circonstances. Et puis donc, ces troubles du comportement avec ce qu'on appelle des stéréotypies motrices, donc Et des intérêts restreints, par exemple, ramasser des miettes, faire tourner des toupies, faire tourner des agiter des mouchoirs, comme vous avez pu voir dans le film, ou faire tourner des s'intéresser à des objets brillants et à les faire bouger pour bon. Alors, c'est une définition, l'ensemble de cette définition, vous sentez, comme la manière dont je vous l'ai dit, que dont je vous l'ai décrit, qu'elle me convient à moitié, c'est la définition internationale. En fait, elle est très négative parce que, et elle a sa légitimité et sa justification, c'est une photographie d'un certain nombre de troubles comparés à la manière dont un enfant normal se présente. J'ai oublié de dire que ce sont des difficultés qui apparaissent avant l'âge de 3 ans. Pour qu'il y ait un diagnostic d'autisme, il faut que ces troubles apparaissent avant l'âge de 3 ans. Donc je disais que c'est une définition essentiellement négative par comparaison avec le développement d'enfants normaux, d'enfants ordinaires. Peut-être tout à l'heure dans la discussion, si ça vous intéresse, on pourra essayer de parler de ces troubles de manière de décrire des mécanismes plus dynamiques et plus positifs. Alors, pour l'instant, donc, cet ensemble quand même de signes, pour autant qu'il différencie le développement de ces enfants des enfants ordinaires, va représenter une variété d'enfants extrêmement importante. Et au fond, tous les jeunes gens que vous avez vus dans ce film correspondent à cette définition, mais vous avez vu à quel point ils peuvent être dissemblables. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de diagnostic. Peut-être tout à l'heure, si vous avez des questions sur ce sujet, on pourra y revenir dans le débat, parce que je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler des difficultés d'intégration sociale de ces enfants quand ils sont petits, quand ils grandissent, quand ils deviennent adolescents et quand ils arrivent à l'âge adulte. Alors, dès qu'ils sont petits, quand leur famille se rend compte de leurs difficultés, elle va évidemment en consultation, et c'est vrai qu'il faudrait, compte tenu de la gravité de ces troubles, qu'ils puissent être pris en charge de manière intensive, très tôt, et de manière continue, avec un plateau technique étendu qui serait composé de non seulement de médecins, mais de psychomotriciens, d'éducateurs de jeunes enfants, de personnes spécialisées dans un travail très spécifique. En fait, les prises en charge précoces sont tout à fait insuffisantes dans ce pays, et souvent, même si les consultations et le diagnostic et les examens qui peuvent permettre de reconnaître ce trouble peuvent être faits assez tôt, les prises en charge, le travail nécessaire pour essayer de gagner du temps sur le développement de ces troubles envahissants qui vont toucher tous les domaines de compétences de la vie d'un enfant, les prises en charge sont insuffisantes. Quand ils arrivent à l'âge de l'école, eh bien certains arrivent à entrer à l'école et arrivent à être acceptés à l'école. D'autres non. D'autres ont des troubles du comportement trop importants et ils vont être pris en charge dans des centres spécialisés qui sont soit des instituts médico-éducatifs, soit des hôpitaux de jour pour enfants. Ils vont avoir donc un développement, et ils vont être à ce moment-là accompagnés par des équipes pluridisciplinaires, donc là encore des éducateurs, des psychomotriciennes, des orthophonistes, des psychologues, des psychiatres, et évidemment avec une disparité suivant les régions, si ça n'est pas la même chose si on est dans une grande ville ou une petite ville, si on est en province ou si on est dans un endroit où au fond il y a beaucoup de moyens. Bon, donc il y a déjà une certaine inégalité dans l'accès aux soins et à l'éducation pour dès l'âge scolaire. Quand ils sont un peu plus grands, la situation devient plus dramatique parce que, avec l'adolescence, l'adolescence arrive et l'adolescence chez ces enfants qui sont déjà, qui ont un développement à la fois envahissant et déviant et envahissant l'ensemble des domaines des compétences, comme je le disais tout à l'heure, l'adolescence arrive, mais l'adolescence est normale. C'est-à-dire que la puberté, le développement des organes, le déploiement des hormones, les interactions des hormones, des intérêts psychiques, de l'intérêt pour les autres, est en quelque sorte normal, mais cette apparition d'une adolescence normale, qui est une période difficile, même pour les adolescents ordinaires, une période un peu chaotique, va se confronter avec un développement déviant. Et donc, nous avons une période particulièrement difficile, ce qui explique sans doute qu'historiquement, eh bien, ces enfants-là se retrouvent souvent dans des no man's land et dans des formes d'exclusion. Ils peuvent être exclus, de se retrouver sans accompagnement social, éducatif et psychologique pendant une période de 2, 3, 4 ans. Il y a plus de 10 ans avant que l'autisme devienne une priorité de santé publique, une enquête de l'Inspection générale des affaires sociales avait évalué à 5 000 le nombre d'adolescents autistes ou ayant de troubles apparentés accueillis nulle part. Alors, après cette période très difficile de l'adolescence, qui est à la fois en même temps une période d'ouverture, parce que l'adolescence étant un peu étant normale, elle amène, finalement, elle contrecarre cette tendance au repli, cette difficulté de contact, les difficultés à imiter, et au fond, elle apporte un renouveau d'intérêt social, une forme de seconde chance, en même temps qu'elle peut aggraver aussi des troubles, parce que l'apparition de la sexualité, qui ne peut pas tout à fait s'accomplir, ou trouver des partenaires, évidemment, qui parfois troublent ces jeunes gens qui ont un développement cognitif et psychique retardé, eh bien, ça peut amener à des situations extrêmement difficiles. Après cette période, ils arrivent à l'âge adulte, et si vous avez entendu ou suivi des émissions à la télévision, vous devez savoir que le nombre de places d'accueil pour les adultes ayant ces troubles sont tout à fait insuffisantes encore, et qu'un certain nombre doivent aller en Belgique, souvent, où il y a un peu plus de places parce qu'on ouvre plus facilement des centres en Belgique qu'on en ouvre en France, qui a des normes, qui a des exigences de normes et des contraintes administratives et de contrôle beaucoup plus importante qu'en Belgique. Alors, tous ces jeunes gens... Alors, il faut savoir, j'ai oublié de dire quand même, qu'une catégorie, une certaine partie d'entre eux, et vous en voyez aussi à la télévision quelquefois, ont moins de 20% ont ce qu'on appelle des autismes de haut niveau ou des TED, des troubles envahissants du développement avec des capacités tout à fait importantes, et certaines de ces personnes ont d'ailleurs parfois des intelligences au-dessus de la moyenne, et peuvent avoir des situations de sociales tout à fait élevées, en tout cas avec des capacités de travailler et de produire tout à fait importantes, mais quand même, ce sont toujours des personnes qui ont des difficultés dans les interactions sociales et qui peuvent souffrir, finalement, de leur autisme, fût-il de haut niveau, ou de ces troubles envahissants du développement. Alors, je vous ai brossé à très grands traits, de manière rapide, ces difficultés d'intégration sociale, les difficultés d'intégration sociale de ces personnes, pour qu'on se pose la question suivante, après le petit film que vous avez vu, est-ce que finalement, alors qu'ils ont besoin de beaucoup de soins, de beaucoup d'éducation, de prise en charge très spécialisée, comme l'orthophonie, la psychomotricité, d'accompagnement neuropsychologique, et de beaucoup d'autres, finalement, d'un plateau technique extrêmement étendu. Quelle place a l'accès à la culture dans cet ensemble? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est du gâchis? Quelle place cela a-t-il face à la nécessité de créer des places d'accueil dans des centres ou de créer des logements, de trouver des logements adaptés et de favoriser le développement d'une assistance par des personnes spécialisées pour les accompagner dans tous ces domaines basiques et vitaux de la vie de tous les jours. Alors, bien évidemment, on pose cette question parce que c'est une question qui se pose. Ce film, en tout cas, illustre un point de vue qui est le nôtre. Et je pense que Philippe peut en dire en tant que psychologue, artiste lui-même et comédien, et très impliqué finalement à la fois dans le travail d'accompagnement et dans toutes ces activités culturelles, a sans doute un point de vue sur la question.
Merci. Alors, il est vrai que la rencontre avec ces personnes, moi, je travaillais à l'époque en tant que comédien dans une troupe militante, et sur mon chemin, j'ai rencontré ce guide spirituel, donc Howard Buten, qui avait mis son clown au service de quelques jeunes gens dans un hôpital de jour, l'hôpital de jour du Pradon, où exerçait le docteur Tony Lenné, qui était un éminent psychiatre. J'ai vu sur cette table quelques références aussi à Bettelheim et autres. Et donc, dans une inspiration et une volonté d'une prise en charge d'une autre nature, il avait créé un espace où il y avait cette possibilité d'ouvrir à la médiation culturelle et artistique et de créer du mouvement dans les institutions. Alors, c'est vrai que la rencontre avec Howard Buten au Festival d'Avignon a été déterminante. Et puis, par la suite, j'ai eu cette possibilité de rencontrer le docteur Moïse Assouline qui, dans le cadre de l'hôpital de jour Santos Dumont, souhaitait qu'il y ait d'emblée une démarche artistique et culturelle qui ne serait pas là pour soigner, mais qui serait là pour établir un lien avec le milieu ordinaire et qui serait là pour créer une passerelle et situer d'emblée toute une démarche artistique comme un témoignage auprès du milieu extérieur. Alors, il est vrai que ce défi m'intéressait particulièrement parce que là, vous avez pu voir un certain nombre d'initiatives qui remontent à quand même un certain nombre d'années maintenant. Et alors, on intervenait dans le cadre des hôpitaux de jour. Et puis après, la démarche, elle a été d'aller dans des lieux culturels à part entière et de faire en sorte que ces jeunes viennent sur ces lieux culturels et non plus que nous allions, nous, extérieurs, pour quelques heures d'ateliers par semaine. Et puis, de fil en aiguille, les ateliers se sont développés. Et à partir des représentations, on a vu qu'il y avait un certain écho. Et cet écho auprès du public, alors il était quelquefois très mitigé ou il est toujours questionnant. Pourquoi un public venait voir ces jeunes personnes sur scène? Alors, est-ce que ça relevait de l'exhibition ou d'un certain voyeurisme? Ou alors, est-ce qu'il y avait une véritable émotion directe? Et puis, l'envie d'être un peu transporté ailleurs aussi par les présentations et les représentations. En tout cas, on a tenté de relever ce défi et actuellement, bon, on a développé notre action à tel point que nous avons pu créer un espace. Enfin, bon, le papotin tourne toujours beaucoup, présente son journal dans beaucoup d'endroits. Et chacune de ces activités donc, s'est développée. Et nous avons un lieu, les chapiteaux turbulents, dans lequel nous avons pu proposer à quelques-unes de ces personnes, enfin 25 d'entre elles, un statut de travailleur de la culture, pour faire vivre ce lieu, établir des liens avec d'autres artistes et puis d'autres qui sont en formation professionnelle. Voilà, le défi, il est permanent. Et c'est pour ça que j'apprécie tellement la démarche de Jean Boschko ici dans la Nièvre, parce que lui aussi, il est dans cette recherche quasi permanente de pouvoir signifier autre chose avec l'art et d'en faire un véritable outil de réflexion et de recherche de liens sociaux. Alors il est vrai que nous sommes en permanence aussi maintenant dans cette volonté de créer du lien et de tenter avec les personnes qui nous rencontrent des moments très forts au niveau de l'émotion, mais aussi au niveau d'une exigence artistique, de pouvoir établir et rayonner tout notre action. Je pense au lien que nous avons établi avec la Russie, avec les enfants de Beslan, avec la Pologne, et ainsi de suite, où nous avons donc non seulement rencontré des personnes qui sont dans le cadre de la pathologie mentale, mais également dans un registre de troubles sociaux ou d'handicap physique, ou encore simplement dans des situations économiques extrêmement difficiles. Donc cet outil de l'art nous permet de revendiquer une action politique. Et voilà, donc c'est ce quotidien-là que nous essayons de défendre à l'heure actuelle. Alors, les journées se passent avec des artistes qui viennent avec leur art et qui proposent des ateliers. Donc nous développons ces ateliers pour présenter des spectacles, on les tourne. Alors là, jusqu'alors, rien de particulier ni de classique par rapport à ce qui se passe habituellement, sauf que le propos, il est de faire valoir que ces êtres humains, si on les a rencontrés et qu'il y avait une fibre et qu'on a été absolument séduit avec eux et qu'on a été absolument touché de leur force, de leur potentiel, eh bien, c'est avec ça qu'on essaie de parler aux autres. Alors moi, je me réjouis tout le temps de voir que, quelquefois, quand on présente un spectacle, c'est l'auditoire qui est sensibilisé, qui se questionne et qui a envie, du coup, de pouvoir faire et s'interroge sur sa pratique artistique. Enfin, ce sont ces jeunes qui étaient exclus de longue date de toute la culture qui, d'un seul coup, permettent au grand public d'avoir envie de faire et de travailler leur art. Voilà. Alors moi, je me réjouis tout le temps de voir cette possibilité-là, que ce sont ces jeunes qui amènent et qui motivent des personnes pour faire. Et alors, on a toujours aussi des moments très étonnants de rencontres avec les spectateurs ou après les représentations, dans des moments assez forts d'échange. Et alors, ces personnes qui étaient exclues de la communication ont une volonté de rencontre absolument étonnante. C'est vrai qu'on a passé des moments ici avec le travail que nous avons fait à Jailly-Saint-Sylvestre, où on a eu comme ça des associations assez étonnantes entre un milieu rural et un milieu urbain, et des personnes qui étaient dans des sphères totalement étrangères et qui, d'un seul coup, ont, sur le temps de quelques mois, eu la possibilité d'échanger, de faire ensemble et de pouvoir se porter face à un public et interroger. Tout à l'heure, je faisais référence à la différence. Le fait est, c'est que dans nos représentations, on avait quelquefois des personnes dans le public qui se demandent alors sur scène qui est autiste et qui ne l'est pas. Est-ce que le contrebassiste, il a un problème? Est-ce que cet autre-là, il en a? Mais lui, il est quoi? Et c'est dans ce trouble qu'on essaye de passer un message. Et ce qui fait que finalement, eh bien, le public peut se rendre compte de... ils ne sont pas si différents que ça. Ils sont pleins de vie. Il y a beaucoup d'émotions. Et voilà, c'est finalement, cette différence, elle se place où? Voilà, c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure que, eh bien, ma foi, on recherche, et ça, c'est un de nos axes depuis le début, de gommer, d'essayer de garder la culture et de barrer cette notion de différence. J'aimerais pouvoir aussi parler dans le cadre de ce travail, on a pu associer des personnes qui sont en difficulté par rapport à des difficultés sociales au niveau de conflits ou qui ont des peines à accomplir. Et on a pu être habilité par le ministère de l'Intérieur pour accueillir des personnes en travaux d'intérêt généraux. Là aussi, c'est encore un rapport de la culture à cette différence. Et on se rend compte que le fait de pouvoir, pour ces personnes, plutôt que d'accomplir une peine, de venir passer quelque temps avec nous, permet une forme de responsabilisation et de sensibilisation qui est pour nous un outil très important. Voilà. Et enfin, ce que j'aimerais, avant de pouvoir répondre et être disponible pour vos questions, faire référence au contact qu'on avait, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, avec l'étranger, de se dire que dans nos réseaux, on a essayé de développer cette action avec d'autres pays, d'autres références, et je crois qu'il y a une véritable volonté quand même à chaque fois de pouvoir bénéficier de cet outil et de la culture pour pouvoir transformer un peu les choses. Alors, il est vrai que cette transformation ne va pas de soi. Il est vrai que la culture, la grande culture, celle avec un grand C, n'est pas toujours, comme on a pu le voir à travers certains artistes dans cette présentation, la culture n'est pas toujours très disponible pour accueillir. Il y a des références, il y a des codes, il y a des conventions. Et on a réellement besoin encore de créer une place dans cette sphère. Et je crois que le travail très quotidien qu'on peut mener, et puis l'exigence de travail peut faire en sorte qu'on puisse relativiser là aussi les frontières entre d'un côté un art social et de l'autre la référence qui serait de la culture et l'art avec un grand A. Voilà. Donc la passerelle, elle est non seulement vis-à-vis d'une sensibilisation, c'est pas, on ne cherche pas spécifiquement à intégrer ces jeunes personnes par l'outil culturel, mais on cherche à travers notre démarche à faire en sorte que une place un peu plus conviviale leur soit apportée. Voilà. Voilà, merci. Oui, on a jeté un froid, mais...
Non, nous avons été volontairement succincts de manière à ce que vous puissiez poser des questions et donc nous les... Voilà.
Voilà. Bon, voilà, j'ai allumé le micro baladeur. Vous savez que si vous avez envie de dire des choses, de poser des questions, faites-le dans le micro parce que ça enregistre et que ces conférences et que ces débats, questions, etc., tout ce que vous dites est ensuite en ligne et le monde entier peut l'écouter. Enfin, faut pas se faire d'illusions, il y a beaucoup plus de gens qui écoutent. Voilà, donc voilà, le micro est à votre disposition. Merci pour cette entrée en matière.
Bonsoir. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir assister à des ateliers avec les Turbulents à l'abri culturel de Nevers avec le théâtre Éprouvette. Et j'en ai un très beau souvenir. On a partagé des très beaux moments avec les Turbulents. Et en fait, quand j'assistais et je faisais avec eux les ateliers, ben, je ne me sentais pas du tout différente d'eux. Je me reconnaissais aussi dans eux, dans ces personnes-là. Alors, bon, voilà. C'est tout ce que je peux dire. J'ai pas de questions, moi.
Oui, non, mais je
j'ai le constat d'avoir passé des moments merveilleux et on m'a fait beaucoup de cadeaux à ce moment-là. Et ça m'a beaucoup enrichi, tous ces moments que j'ai passés à l'abri culturel.
Oui, voilà. je me souviens de ces moments-là et je me rappelle que toute votre démarche s'appelait Ouverture Vraie. Et je crois que l'intitulé était en soi très porteur.
Je sais qu'on a parlé de Jailly ici parce que donc il y a eu une expérience, il y a quand même une expérience assez émouvante et c'est quelque chose qui a marqué le village de Jailly. Alors si vous avez envie de dire quelque chose parce que c'est quand même, c'était pas rien cette rencontre de Jailly avec le groupe d'autistes qui sont venus pendant des mois travailler avec eux.
Il est vrai qu'on a travaillé, si on peut appeler ça travailler, avec Philippe, les turbulents, enfin turbulences, les autistes. Et moi, quand j'ai vu Paola tout à l'heure à l'écran, j'ai eu de grands frissons. C'était en 2001, 2002. Elle nous appelle tous les week-ends. Elle demande des nouvelles de mes trois filles. Elle les appelle par leur prénom. Et des enfants de ma compagne. Et de tous les habitants de Jailly. Et c'est vrai que je peux vous dire qu'ils nous ont appris, eux, beaucoup de choses. Et quand, Philippe, tu disais tout à l'heure, enfin à l'instant, qu'on ne savait pas qui étaient les autistes, je peux vous dire que quand on était sur scène avec eux, je pense que c'était nous. Ce sont des gens qui ont une capacité à s'intégrer. Pendant une heure et demie sur scène, ils tiennent le choc, quoi. C'est spectaculaire. Il faut le vivre pour le croire. Et malheureusement, il est vrai, Moïse, tu le disais aussi, il n'y a pas assez de place pour ces gens-là aujourd'hui. Surtout, on peut en parler des adultes. Ils sont obligés de partir en Belgique. Paola nous appelait de Belgique. Ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. On ne peut même pas assumer nos enfants. C'est grave. Voilà.
Bravo. Allez-y, hein, pour les passer.
Non, il n'y a pas de... Ah.
Merci. Moi, je ne connaissais pas ce film-là et j'étais très touché par quelque chose. C'est-à-dire, pour moi, l'autisme, enfin, j'avais cru comprendre que l'autisme était défini par l'autre n'existe pas. On est dans son monde et l'autre n'existe pas. Et là, j'ai vu dans ce documentaire que les autres étaient là et qu'ils étaient ensemble avec les autres. Alors, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur ce point-là ?
Oui, je pense que c'est une question importante parce que c'est une représentation de l'autisme qui est ancienne, qui est basée sur des représentations psychologiques qui étaient des hypothèses et qui avaient cours dans les années 50. Et au fond, on essayait de comprendre ces difficultés que présentaient ces personnes-là avec les modèles qui étaient à la disposition des médecins, et notamment les modèles, c'était ceux de la psychose de l'adulte ou de la névrose, et que avec ces modèles-là, les difficultés présentées par ces enfants ont été modélisées sur des choses qu'on connaissait chez les adultes. Et au fond, ça n'est seulement que peu à peu, que ça, au fil des années, il y a eu à la fois, on s'en est, grâce d'ailleurs, il faut dire d'ailleurs que ces modèles, notamment celui de Bettelheim, par exemple, qui n'est plus du tout reconnu, mais néanmoins, Bettelheim a eu le mérite de s'intéresser de manière particulière à ces enfants-là. Et du coup, il a intéressé des éducateurs, il a intéressé des pouvoirs publics, et donc il y a eu d'autres recherches, d'autres approches, et peu à peu, il y a eu des modèles différents qui se sont fait jour. Et dans les 10 dernières années, la connaissance de ces personnes a énormément évolué, et elle continue d'évoluer de manière très rapide, si bien que probablement on en saura beaucoup plus encore dans les années qui viennent, que maintenant. Et pour revenir maintenant à la question précise, au fond, je disais tout à l'heure qu'on peut critiquer même la définition actuelle reconnue internationalement, on peut la critiquer parce qu'elle est très photographique quand même. Au fond, on dit ils ont tendance au repli, à l'isolement, et avec cette idée que l'autre ne les intéresse pas. Et en fait, c'est une image un peu figée, c'est une image qui correspond à la réalité, parce que si on les regarde dans certaines situations, on va souvent avoir cet aspect-là. Mais néanmoins, il s'agit sans doute d'autre chose. Il s'agit plus d'un élan bloqué, d'une anticipation de la panique qui amène la personne à se replier, que d'une envie de fuir les autres ou d'une absence de reconnaissance des autres. Et c'est effectivement ce que notre travail de tous les jours nous montre. Ce que vous avez vu dans ce film fait mentir les livres, en quelque sorte. Et au fond, on peut prendre une image relativement simple, si vous voulez, c'est que quand vous voyez un enfant normal qui se développe, et là, il y a ici beaucoup de mamans ont eu des petits, et vous voyez comment un enfant normal grandit en quittant le giron de sa maman pour s'éloigner, et puis il revient se recharger, et puis il s'éloigne, et vous le voyez ça chez les petits de quelques mois, à mesure qu'ils grandissent, et finalement toute la vie d'un individu ordinaire est faite de ces allers et retours, avec des écarts par rapport à son point de départ, des écarts par rapport au même, qui sont de plus en plus importants, mais quand même avec un retour. Hein, vous avez une sorte de dialectique de l'aller, de partir et de revenir, au fond. Et ça, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le petit sur un tapis près de sa maman, ou sur un enfant qui va à l'école et qui ne se retourne pas pour regarder sa maman quand elle le laisse, mais qui en a bien besoin quand il revient le soir, ou quand il est beaucoup plus grand, quand il va voyager à New York, par exemple, et puis quand il revient chez lui, il est très content. Vous voyez, ce mouvement-là est le mouvement d'une personne normale. Eh bien, chez ces petits autistes, nous allons voir que l'écart par rapport au même est beaucoup plus petit. Si on observe bien, c'est ce que font les chercheurs et ceux qui s'occupent des petits, on voit bien que ça n'est pas qu'ils ne peuvent pas s'écarter et qu'ils restent complètement repliés, c'est qu'ils peuvent, ils ont ce même mouvement, mais beaucoup plus restreint. Et s'ils le dépassent, or, tout ce qui est fait dans le monde, dans leur environnement, les sollicite, il est fait pour vous, pour vos enfants ordinaires, pour au fond, tout est organisé pour solliciter un certain écart. Ce qui fait qu'ils sont beaucoup trop sollicités par rapport à leur équipement, et du coup, ils se défendent de ça. Et c'est cette différence qui fait que on peut considérer que ils sont dans cette espèce de cocon et dans cette bulle, hein, ce qui est l'image classique de l'autisme, mais au fond, il y a une contradiction avec ce que nous observons quand nous sommes avec eux. Et au fond, si vous les assistez, si vous les accompagnez, eh bien, écart après écart, ils font du chemin, beaucoup de chemin. Voilà.
Je vais peut-être poser une question peut-être pas forcément, enfin peut-être un peu idiote. C'est juste, je pose juste cette question. C'est passionnant d'essayer de comprendre, et on se demande vraiment si on peut comprendre, même en étant médecin comme toi. Mais est-ce qu'on peut comprendre ce trouble-là, ce trouble donc mental, psychique, psychologique?
Oui.
Mais la question que je me pose, c'est dans cette action qui est formidable que vous faites et avec Philippe et tout, est-ce qu'il y a une nécessité que ça s'adresse à l'autisme? Est-ce que les autres, la question que je pose, c'est est-ce que les autres troubles mentaux ne pourraient pas se joindre à eux? Est-ce qu'il y a une nécessité pour les autistes, parce que comme je connais bien le papotin, que je vois comment ça se passe, et que à chaque fois on est émerveillé, ému, et de justement ces rapports entre ces personnages qui agissent pas du tout comme tout le monde et qui s'expriment tout à fait différemment et qui pourtant manifeste plein de choses qui nous touchent, à nous, censés être normaux, même si on peut toujours en douter, surtout quand on est dans le monde du spectacle. On se pose sans cesse cette question sur s'exprimer. Qu'est-ce que c'est s'exprimer, vouloir s'exprimer, qu'est-ce qu'on exprime et d'où ça vient? Et comme tout à coup, on a ces gens qui peuvent justement produire du spectacle aussi spontanément, et je vois bien chez vous, Moïse, que c'est un problème de sentir cet attrait du spectateur. Même toi, Philippe, quand tu dis est-ce qu'il y a un voyeurisme, quelque chose, des gens qui viennent voir des spectacles où il y a des gens qui sont quand même dits pas normaux et donc atteint d'une maladie mentale. Est-ce que dans tout ça, est-ce que, alors je pose la question, est-ce qu'on, c'est très long, je m'en rends pas compte. Voilà, je m'en rends pas compte. Est-ce que les autres troubles mentaux ne peuvent pas faire partie de ce, de cette action? Est-ce qu'on peut les mélanger?
D'accord, non.
Ces jeunes.
Alors, je crois que d'abord, en fait, pour les autres troubles mentaux, ce que vous voyez là, ce type d'action, n'est pas une action exceptionnelle, ni exemplaire, ni d'une rareté absolue. Il y a beaucoup d'expériences de travail, de création artistique avec des personnes qui ont des troubles mentaux extrêmement divers. Il y a beaucoup d'activités de création avec des schizophrènes. Alors c'est important de dire que les schizophrènes, par exemple, dont vous entendez parler récemment dans les journaux, parce qu'il y a eu un meurtre commis par un schizophrène, et il faut savoir qu'en fait, les schizophrènes sont beaucoup plus vulnérables que vous et moi en général, et que la proportion, je dirais, de meurtriers potentiels qu'il y a dans cette salle, en pourcentage, est beaucoup plus importante que s'il n'y avait ici que des schizophrènes. Il faut savoir. Bon. C'est pour ça qu'on en parle, mais c'est pour ça qu'on on en parle aujourd'hui dans les journaux de cette manière. Mais c'est très important peut-être aussi de dire à cette assemblée, le mot autisme était un des symptômes de la schizophrénie. Depuis toujours, c'est vraiment une caractéristique. L'autisme veut dire repli, en fait, repli sur soi. Et il s'agit de quelque chose en même temps qui est complètement différent de ce dont nous parlons, de l'autisme infantile. Il se trouve que historiquement, les autistes que vous voyez là, que vous avez vus dans ce film, étaient jusque dans les années 40 et même plus tard confondus dans un ensemble qu'on appelait couramment des imbéciles et des idiots, c'est-à-dire des retardés mentaux, et mis très tôt dans des hôpitaux psychiatriques parce que c'était impossible qu'ils puissent vivre en famille. Et dans les années 40, un psychiatre américain a repéré qu'un certain nombre d'enfants qui avaient des troubles extrêmement sévères étaient quand même un peu particuliers, et c'est lui qui a fait une description, cette description qui a encore cours aujourd'hui sur le repli, sur l'isolement, sur la tendance à l'isolement, une forme d'étrangeté de comportement de ces enfants. Et par analogie avec l'autisme de la schizophrénie adulte, il a appelé ce comportement autisme infantile. Ça a amené à beaucoup de confusion, en fait. Parce que les schizophrènes, ou toutes les maladies, les troubles mentaux de l'âge adulte, arrivent chez des personnes qui ont eu un développement social normal, ordinaire, qui ont été à l'école, qui ont appris à parler, à écrire, qui ont eu parfois des métiers, qui ont eu des relations sociales, des relations amoureuses, et qui, après, ont eu des troubles mentaux sévères qui les ont désinsérés de la société. Et là, nous avons des personnes qui ont eu un développement développement perturbé et déviant depuis qu'ils sont petits. Bon. Alors, ceci étant dit, pour répondre à ta question, des activités culturelles et artistiques existent avec toutes les catégories de troubles mentaux. Donc, ce qui est peut-être important de savoir, c'est que l'espace culturel, ça c'est ça qui vous concerne, l'espace culturel est un espace extraordinaire pour la communication avec des personnes que vous et moi, que vous n'accepteriez pas, avec qui vous auriez beaucoup de mal à rentrer en contact si ces personnes étaient vos voisins. Et oui, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire que le public ordinaire aime éventuellement aller à l'opéra, aller au cinéma, aller au théâtre et voir sur scène la représentation de la folie, de la déviance, de la marginalité, de la violence, mais il ne peut pas la supporter dans la vie réelle. Et l'espace culturel est un espace qui permet justement une passerelle avec des émotions, des comportements qui sont en nous, qui sont contrôlés et qui parfois habitent des personnes qui vivent très difficilement ces choses-là. Et je vois que tu es étonné de ce que je te dis, mais ah si, 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 mais justement, ces jeunes gens-là en particulier, non, ces jeunes gens, le papotin, c'est dans des moments tout à fait particuliers. Mais ces jeunes gens-là sont très tyranniques à cause de leurs troubles pour leur famille, qui souffrent énormément. Ils sont rejetés de l'école, ils sont rejetés y compris parfois des institutions. Et c'est vrai que c'est pour cela que nous avons bataillé au fond pour créer des espaces culturels, parce que les espaces culturels sont des espaces où les conflits violents, l'émulation, le rejet, etc., peuvent être traités de manière plus positive. Mais ce sont des moments, ce sont des espaces culturels qui ne sont pas toujours, qui sont rarement les espaces de la vie réelle commune. C'est pour ça qu'il est particulièrement heureux que Philippe ait réussi à un moment à faire de ces espaces, de ces îlots, extrêmement marginaux finalement, a réussi à faire, par exemple, ce centre d'aide par le travail, ce centre d'activité de jour, cette institution où la culture est l'élément le plus important de la vie de ces personnes et de leur entourage. Mais c'est ça qui est rare. Ça n'est pas les ateliers culturels que vous voyez qui existent aussi avec les schizophrènes et avec les troubles mentaux. Quant à les réunir ensemble, pourquoi pas? Ça peut se faire. Il peut y avoir des opportunités pour que des personnes qui ont des troubles mentaux de l'âge adulte rejoignent. Mais ça dépend des circonstances.
Moi, je voudrais savoir si l'autisme est une pathologie génétique.
Oui.
Merci.
On peut en dire un peu plus. C'est-à-dire que l'autisme est effectivement une... elle correspond à plusieurs types d'anomalies génétiques, en fait. Ça a été longtemps considéré comme un trouble essentiellement psychologique, mais ça n'est plus du tout une explication admise. C'est notamment Bettelheim qui avait beaucoup travaillé sur ces questions-là. Il a été très décrié et même injurié de manière outrancière, mais c'était les idées de son époque. Et il n'avait pas les outils pour comprendre l'autisme dans les années 50 ou 60. Aujourd'hui, il y a d'une part des recherches qui montrent que une bonne partie des autistes ont des maladies génétiques différentes les unes des autres, mais qui sont bien spécifiées. Donc on découvre qu'ils sont certaines sont héréditaires et d'autres non. D'autres sont des accidents génétiques particuliers qui arrivent dans une famille un peu par hasard. D'autres se transmettent. Et ça, c'est pour une catégorie qui pourrait représenter peut-être près de la moitié, à peu près. Actuellement, disons, des diagnostics très précis de ce qu'on appelle des formes syndromiques d'autisme, on trouve entre de 20 à 25% de cas avec des maladies tout à fait reconnues. Il y en a d'autres qui sont liées à d'autres maladies neurologiques qui ne sont pas forcément génétiques. Et puis, il y a une grande partie pour lesquelles on cherche une vulnérabilité génétique qui va amener à des déprogrammations, si vous voulez, à des difficultés, des dysfonctionnements de la programmation du développement, et où là, il va y avoir des interactions entre l'origine génétique, les défaillances cérébrales ou enzymatiques ou métaboliques, et l'environnement et avec des conséquences psychologiques, évidemment. Voilà.
Oui, moi, je voulais dire qu'en tant que parents, on était souvent très démunis. Nous, on a une fille qui souffre de troubles envahissants du comportement. sûrement de type de haut niveau, comme vous dites, puisqu'elle est en première année de langue étrangère appliquée à Lyon. Ce soir, elle est à l'opéra toute seule. Mais depuis l'âge de 3 ans, depuis qu'elle est rentrée à l'école, parce que c'est quand même là que commencent les vraies difficultés, il n'y a pas une semaine où on ne s'est pas battu pour pouvoir la garder au sein de la société. Et c'est très dur pour elle, mais c'est aussi très dur pour les parents.
Bien sûr, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure, vos témoignages est tout à fait, c'est ce qu'on rencontre évidemment souvent.
Oui, moi je me demandais si justement les ateliers culturels ne devraient pas être obligatoires, même au sein des sociétés, des employeurs, des gens, pour apprendre à communiquer. Parce que j'ai l'impression quelquefois que les autistes sont... C'est plutôt mon voisin ou mon collègue ou... Et moi-même. Et j'ai appris grâce aux ateliers de Jean Bosco qu'on pouvait, avec le jeu, comme chez l'enfant... Les musiciens communiquent bien parce qu'ils jouent. Et quand on joue au théâtre ou quand on joue à quelque chose de culturel, on arrive mieux directement à communiquer. Ça devient beaucoup plus facile, c'est comme une porte qui s'ouvre. Et est-ce que ça ne devrait pas être obligatoire pour justement apprendre à communiquer et à comprendre un peu les autres ?
Le rendre obligatoire, ça risquerait d'y faire perdre un peu l'intérêt. Mais ce qui me frappe dans ce que vous évoquez, c'est vrai que le terme d'autisme est entré dans le langage courant et il est très fréquemment utilisé par les politiques, dans la presse, où on parle d'une espèce de silence comme ça, une étrangeté et puis un éloignement complet. Alors, les ateliers favorisent sans doute la communication. Maintenant, je vous dis, effectivement, les rendre obligatoires, ça appelle à la rébellion. Alors, c'est un outil, et c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, on a été sollicité pour accueillir. Bon, ça ne s'est pas fait, malheureusement, mais c'est ce qu'ils appellent, dans le terme d'entreprise, le team building. Alors, on a été sollicité au chapiteau turbulent pour que notre groupe accueille des responsables de succursales de banques, mais qui sont vraiment disséminés dans le monde entier, qui venaient faire un colloque à Paris. Et l'idée, c'était qu'ils fassent un petit séjour de quelques heures à Turbulence pour ensuite briser la glace, se rencontrer et après discuter entre eux et poursuivre leurs réflexions. Et on était vraiment très, très intéressés par le projet parce que, là encore, c'était un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, comment ces personnes qui sont tellement éloignées à l'origine de toute cette démarche peuvent faire en sorte de favoriser ou de catalyser ou d'être un peu les passeurs pour que les gens parlent entre eux. C'est vrai que, autre anecdote, dès que nous voyageons ou que nous passions dans un hôtel, dans un lieu, tout de suite, les jeunes sollicitent de savoir quel est le prénom de la personne, interpellent, et ils ont comme ça cette humanité. Et c'est vrai qu'alors, bon, je ne dis pas que tous les ateliers favorisent ça, mais en tout cas, ces personnes-là ont ce potentiel, ou tout au moins ceux avec lesquels nous travaillons. Et puis, toute l'action que nous développons, c'est aussi pour sensibiliser à ceux qui sont en plus grande difficulté. Et on essaye, à travers cette action, de mobiliser et de sensibiliser à toutes ces questions.
Moi, je voulais vous parler de la grande institution française, l'éducation nationale et de l'intégration. Comme vous le savez, la politique, depuis 20 ans, on intègre tous les enfants dans les classes. Or, les enseignants n'ont aucune formation psycho. Alors, un jour, on vous dit, vous allez avoir un enfant, et on vous l'étiquette, on vous dit, il sera autiste, psychotique. Et il est là, en classe, parmi 25 enfants. Et vous vivez un an, mais dans une angoisse. C'est l'horreur. C'est l'horreur.
Parce que vous êtes enseignante ?
J'étais, je suis trop vieille maintenant. Et je l'ai vécu. Et ça a été épouvantable. Enfin, je m'étais appuyée sur Howard Buten, sur Butelem, mais on vous laisse complètement tout seul. Et je me pose toujours la question. Alors, c'est pas complètement peut-être négatif pour l'enfant, mais il y a l'enfant, il y a les autres enfants. Il y a l'enseignant et les parents qui sont dans des souffrances terribles. Et j'ai passé mon temps en réunion, psy, je ne sais pas, ça a été quelque chose d'ingérable, de complètement infernal. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'intégration ? Alors que je suis entièrement d'accord que tous ces gens, tous ces enfants doivent vivre, qui sont très, très attachants, doivent vivre dans la société. Mais comment peut-on faire ? Et juste avant, en Italie, dans une ville près de Bologne, on avait été en séminaire, enfin, et la commune avait misé sur l'intégration. Chaque enfant intégré avait une personne dans la classe qui s'occupait complètement de lui. Et ça, je l'ai vu. Et c'était absolument gérable, et pour l'enfant, et pour l'enseignant, et pour. En France, enfin, tout au moins dans la Seine-Saint-Denis, c'est l'horreur. Hein.
Eh bien, votre témoignage est très important, mais c'est vrai que. Alors, la loi italienne a décidé de l'intégration des enfants il y a déjà très longtemps. Et avec ce que vous décrivez, c'est-à-dire que quand un enfant était intégré en classe, un enfant avec des difficultés, il y avait un auxiliaire qui rentrait avec lui. Et donc, c'est un système qui a pas mal fonctionné jusqu'à ce qu'ils aient un certain âge. En France, le système est plus compliqué, et c'est une des raisons. C'est à la fois un système très sophistiqué, très compliqué, et il est en train de changer. D'abord, ça n'est pas vrai que tous les enfants étaient intégrés. Je pense que, bon, justement, la France a un très grand secteur avec des institutions médico-sociales. Donc il y a énormément d'enfants qui ne sont pas à l'école, mais qui sont dans des structures spécialisées du champ médico-social. Et d'autres sont aussi dans des structures spécialisées du champ médical. Et malheureusement, c'est à la fois un élément de prise en charge particulière, mais c'est aussi un élément de séparation de ces enfants de la société ordinaire. Il se trouve qu'une nouvelle loi, très récente, la loi de 2005, oblige pour la première fois l'éducation nationale à intégrer tous les enfants handicapés. C'est en fait une révolution majeure sur le plan social. Alors évidemment, là où vous avez raison, et ce qui est en train aujourd'hui d'inquiéter tout le monde, aussi bien les instituteurs, les professeurs que les soignants, c'est qu'il faut que, en même temps que ces enfants entrent à l'école, il y ait des accompagnements. Il y a déjà ce qu'on appelle des auxiliaires de vie scolaire. Il y en a de plus en plus, mais tout ceci est très insuffisant actuellement. Mais ce que je veux vous dire, madame, c'est que si les enfants entrent à l'école, il y aura une obligation pour l'école et pour la société, de faire entrer avec les enfants toutes les personnes nécessaires pour qu'ils puissent y être. Mon point de vue est qu'il est plus important qu'ils rentrent à l'école et que, y compris, ça mette pendant une période beaucoup de bazar dans le système, parce que c'est comme ça que les choses changent. Et si l'école change, c'est-à-dire que si l'école devient capable d'absorber des enfants handicapés, toute la société va changer. C'est pour ça que... Oui. Voilà. Mais c'est vrai que la question... c'est mon point de vue. Je ne dis pas que ce n'est pas forcément un point de vue qui est reconnu par toute la profession, mais personnellement, par exemple, si... l'école ordinaire me disait demain, elle ne va pas le faire malheureusement, mais elle me disait demain, à cause de cette loi, je suis prêt à absorber vos 20 jeunes de l'hôpital de jour, je suis absolument prêt à transformer tout l'équipement de l'hôpital de jour comme élément d'accompagnement de ces enfants dans l'école. Je n'hésite pas une seule seconde, parce que c'est ça qui peut leur faire du bien.
Mais c'est vrai que j'entends souvent par rapport aux familles l'idée que leur enfant puisse rejoindre les autres enfants, ça a quelque chose d'exceptionnellement important pour eux. D'ailleurs, la plupart, je vois dans le centre qu'a créé Howard Buten à Saint-Denis, justement, très fréquemment, dans le langage des parents, ils disent leur enfant va à l'école. Il y a cet engouement de se dire qu'il est un peu comme les autres et que c'est très très important de maintenir maintenir un contact avec le lien social. Alors il est évident que quand il y a des classes avec 30 élèves, où déjà l'instituteur a des difficultés avec différents niveaux, différentes vitesses, ajouter comme ça des personnes qui ne sont pas préparées à ça, c'est d'autant plus difficile. Mais je crois qu'il y a vraiment énormément à réformer dans ce système-là, quoi.
Oui. Alors moi, je me souviens de quelque chose. C'était, je me souviens du regard de ces enfants. Et parfois, on n'avait pas besoin de paroles pour se comprendre avec eux. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Je voulais, parce que j'ai omis de le dire tout à l'heure. Et en même temps, j'ai une question justement moi qui m'interpelle depuis des années. Qu'est-ce que c'est que l'intégration ?
Alors. L'intégration, c'est déjà un milieu et un environnement qui permet de pouvoir accueillir. Je parlais de la convivialité tout à l'heure. La convivialité, c'est déjà l'appropriation d'un territoire et lui rendre sa valeur d'échange plutôt qu'une valeur d'usage. Alors je crois que l'intégration, ma foi, c'est simplement que, eh bien, y ait cette disponibilité d'accueil déjà pour commencer. Il est inutile de vouloir conformer une personne à un système avec lequel il est déjà hyper angoissé, auquel il ne veut pas ou il ne peut pas appartenir. Il faut aussi questionner que le terreau soit favorable pour que la personne puisse évoluer.
Je vais vous parler de Claudine, avec qui je travaille à Nevers depuis 4-5 ans maintenant. Claudine, c'est une adulte trisomique. Et puis, elle s'est un jour, son père est venu me demander si j'acceptais des handicapés dans l'atelier que je mène au Pac des Ouches à Nevers. Je lui ai répondu, vous savez, pour moi, je fais pas la différence. Si elle veut venir, il n'y a pas de problème. Et donc Claudine, elle vient, ça fait plusieurs années maintenant, et elle travaille avec un groupe de gens où il y a des profs, il y a des gens qui ont du boulot, il y a Christian qui était au RMI, qui est maintenant en retraite, il y a des jeunes, il y a des vieux. Et puis, ce qui me semble important, en voyant l'évolution, alors au début, évidemment, Claudine, tout le monde avait tendance à la materner ou à la paterner, c'est-à-dire à l'aider, parce qu'elle a un certain nombre de difficultés par rapport à des choses qu'on demande ou qu'on pense être les choses à savoir dans le cadre d'un atelier d'expression théâtrale. Et tout le monde avait tendance à la materner. Et puis un jour, on a fait un petit exercice d'échauffement comme ça. Et il fallait se plier, vous voyez, simplement les étirements et puis se plier. Et puis Claudine, elle s'est pliée comme ça, puis elle touchait les mains par terre. Elle touchait ses pieds, quoi. Elle était complètement pliée comme ça. Et tous les autres, ils l'ont gardée. Elle était la seule en situation de réussite totale par rapport à l'exercice. Hein. Personne n'arrive à le faire. Et ça a été terminé. Plus personne n'a cherché à l'aider. Qu'elle se démerde. Elle sait faire des trucs qu'on sait pas faire, qu'elle se démerde. Et j'ai vécu un moment très émouvant avec l'expérience de Jaï, parce que j'en avais les larmes aux yeux. C'est le jour où, je sais plus comment elle s'appelle, tu as dit, tiens, tu vas diriger le... Comment elle s'appelle ? C'est Vanessa. Alors Vanessa, qui est une jeune autiste, Philippe... dirigeait le groupe avec les habitants de Jaï. Et puis à un moment donné, je sais pas ce qu'il a eu, bon, j'invente peut-être, mais c'est, et son téléphone a sonné, il est parti, il a dit à Vanessa, occupe-toi du groupe. Et donc Vanessa est venue, et devant les habitants, le groupe d'autistes, elle a fait chanter tout le monde, Et donc, elle dirigeait. Elle était la chef. C'était la direction. La direction était assurée par une jeune autiste. Et je vous jure, ça a créé quelque chose d'une émotion incroyable. J'en avais les larmes aux yeux. Parce que ça semblait impossible à penser. Mais dans l'action, ça a pu se faire et tout le monde s'est mis... tout le monde s'est mis au diapason.
Qu'elle n'utilise pas d'ailleurs parce qu'elle a l'oreille absolue. Et c'est vrai, elle continue de diriger le groupe vocal quand on se présente en public. C'est vrai que ça, elle conduit le groupe d'une manière magistrale. Et en plus, elle est totalement disponible. Il peut neiger, venter, etc. Tout peut s'écrouler à côté. Elle continue tranquillement.
Et puis, alors pour finir, ce que je voulais dire, c'est par rapport à ma propre expérience, c'est sur 20 ans, plus de 20 ans maintenant de travail d'atelier hebdomadaire, c'est, il me semble, on n'est pas des ateliers de production de spectacles. Je veux en faire le moins possible, je veux plus passer à l'exhibition systématique. Mais il me semble qu'on crée des... Il me semble que ce qui est important, c'est de... faire perdurer des lieux ou créer des lieux ou faire exister des lieux où il y a des possibilités de ne pas apparaître comme anormaux. Vous voyez, c'est peut-être un peu ce que tu disais tout à l'heure. Alors, à tous les niveaux, c'est-à-dire que moi, si je prends le cas de Claudine à Nevers, elle vient dans cet atelier et elle est absolument... on parlait d'intégration, il n'y a pas de différence, quoi. Elle vient, elle embrasse tout le monde, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que moi, je suis assez satisfait d'avoir créé un lieu où une personne âgée peut venir et il n'y a pas de différence, c'est possible. Où une personne qui est dite handicapée peut venir, c'est possible. Et puis, on ne va jamais lui faire la remarque de son handicap. Et on ne va plus faire attention à ça, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est agrandir l'éventail possible de vie pour tous. C'est-à-dire être dans des lieux comme ça où on ne va pas nous faire... remarquer, parce qu'à l'extérieur, il y a tout le défi social, il y a des où les règles sont un petit peu différentes, où les règles de fonctionnement social sont un petit peu différentes, et où ça permet, bon, ce sont des petites poches, mais des poches qui sont des poches d'espoir, c'est-à-dire des lieux qui nous permettent d'imaginer que c'est possible. Y compris, je dirais même, ça a une importance sur le plan politique, c'est-à-dire que ces lieux étant possibles, ça nous donne une idée de ce que pourrait être une démocratie plus efficace et plus parfaite, plus avancée. C'est-à-dire que à partir du moment où on a encore ces poches, on se dit ça nous sert d'exemple comme des et évidemment et le fait d'aller dans ces poches, on se dit tiens il y a encore des choses possibles dans l'acceptation de l'autre et dans le travail avec l'autre et non pas des lieux parce qu'il y a des ateliers aussi qui fonctionnent différemment, non pas des lieux où on procède par élimination, c'est-à-dire qu'on y va, le défi est encore plus fort, et on élimine ceux qui sont en situation d'échec par rapport à des règles très strictes, parce qu'il y a ça aussi, hein, parce qu'il y a théâtre et théâtre, expression artistique, ça peut, l'expression artistique, elle n'est pas bonne en soi, c'est l'idée avec laquelle on la pratique et on la fait pratiquer, qui fait qu'elle peut aller dans un sens ou dans un autre, et elle peut très bien démolir les gens, l'expression artistique. Il y en a un à CAT. Il y en a un dans le Nord. Il y a un CAT. Il y a un CAT où il n'y a que des handicapés, qui sont handicapés professionnels et qui sont des professionnels du théâtre. Je ne sais plus le nom. Ils ont fait une pièce avec Claire d'Anquoine en particulier.
Oui, il y a l'Oiseau-Mouche.
Oui, voilà, c'est l'Oiseau-Mouche.
L'Euridice, il y en a quelques-uns, oui.
Oui, il y a Jérôme, j'ai oublié, Jérôme Pellissier, c'était notre intervenant sur vieillesse et préjugés, là, il y a quelques semaines. Il a eu la gentillesse de venir.
Merci. C'est pas par gentillesse, c'est par intérêt que je suis venu. Non, une petite question pour revenir à la question du soin. Est-ce que Est-ce que ce qu'il y a de soignant là, c'est pas précisément l'oubli du soin, en partie ? Et est-ce que c'est pas à l'intérieur du soin qu'on aurait un travail aussi à faire sur ce qui permettrait peut-être de penser un soin qui soit plus motivant et qui profite de ce que la médiation artistique ou de ce que la pratique artistique nous apprend ? À travers vous, vous parliez tout à l'heure de l'exemple de l'orthophonie. Je ne suis pas sûr quand on pratique l'orthophonie en tant que patient, qu'on la pratique. Enfin, on peut la pratiquer en tant que patient et être motivé en tant que patient à la pratiquer si on la comprend comme un soin qui va nous faire du bien, hein, si on a déjà cette faculté-là. Est-ce que c'est pas fondamentalement la motivation aussi qu'on va avoir dans l'art, qui est une motivation qui repose sur d'autres choses que la compréhension de ce qu'on est en train de faire, compréhension au sens intellectuel du terme? Et est-ce que ça serait pas, à la fois, je pense, c'est important de profiter de l'art pour faire un certain nombre de choses, mais est-ce qu'il faudrait pas profiter de ce que l'art nous apporte là-dessus pour modifier aussi certaines choses au cœur des pratiques soignantes par rapport à ces personnes-là?
Certainement que ça a une influence, mais c'est vrai en même temps, c'est-à-dire, je ne sais pas si je comprends bien votre question, le fait est que les pratiques artistiques ont une valeur soignante pour tout le monde. C'est-à-dire que si je suis déprimé, ça m'aide d'aller voir du théâtre ou d'aller au cinéma ou des poésies ou des choses comme ça, comme tout le monde. C'est-à-dire que si on reste enfermé, seul, on est en mauvaise compagnie. On sait ça. Bon, donc si on est je crois que de ce point de vue, ça aide des personnes aussi qui sont des personnes vulnérables, des autistes ou des schizophrènes ou d'autres pathologies. N'importe qui peut être aidé par l'art, d'autant plus que tout en ayant des troubles très spécifiques, il peut avoir par-dessus le marché une dépression méconnue ou masquée. Bon, donc ça c'est un point. Le deuxième point, c'est que pour des gens qui ont des troubles de la communication, se trouver dans des espaces où il y a plus de communication, c'est de ce point de vue aussi soignant. Pour nous, il y a une chose qui est importante. Alors, on rentre dans des histoires techniques. Disons que c'est une forme de sociothérapie. Mais nous avons voulu développer dans ce travail d'accompagnement qu'il y ait des choses qui soient faites avec des opérateurs non médicaux, des opérateurs, des agents qui ne soient pas des agents professionnels du soin, de l'éducation. Et nous faisons extrêmement attention à ce que, dans ces espaces-là, les psychologues ou les psychiatres comme moi n'aillent pas intervenir ou ne fassent pas, de transforme pas cette production culturelle et humaine en produit, en matériel clinique. C'est pour ça qu'on ne fait pas de l'art-thérapie dans ce sens-là, parce que la thérapie, ça peut être plus large, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire avec les ateliers on ne va pas essayer d'étudier sur un plan clinique, de dire, ah ben, la personne qui a fait telle peinture, ou la personne qui a fait telle petite sculpture, ou la personne qui a été chantée, elle a fait de telle et telle manière, et voilà, ça nous montre ceci et cela sur le plan clinique. Ce sont des espaces, c'est là où peut-être, je vais peut-être vous contredire, je ne sais pas, mais ça a cette valeur-là. Mais, c'est-à-dire que quand ces jeunes gens sont dans le domaine culturel, ils sont dans le domaine culturel et pas dans celui du soin. Mais quand on est dans le soin, on fait du soin, on ne mélange pas tout. C'est-à-dire que s'ils sont en séance d'orthophonie, s'ils sont en psychothérapie, s'ils sont en... Eh bien, si vous voulez, là, il faut une technicité, une compétence. S'il faut travailler les troubles sensorimoteurs de ces personnes qui sont extrêmement sévères, il faut des gens qui s'y connaissent dans les déficits sensorimoteurs et pas quelqu'un qui patouille de la sensorimotricité avec un peu de culture, par exemple. Là, ce serait pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, au fond, il y a... Alors, tout ceci permet, effectivement, quand même, que tous les gens qui travaillent là se parlent mieux. Et au fond, c'est vrai que dans nos établissements, dans nos équipes, ce travail-là culturel est motivant pour les personnes qui travaillent, qui font qu'elles sont aussi, s'impliquent dans la recherche, dans des chantiers cliniques nouveaux, dans des situations qu'elles n'auraient peut-être pas cherchées parce que si elles se contentaient de faire leur boulot sans voir. Là, vous voyez, par exemple, ça n'est pas en contradiction, hein, mais vous voyez, nos infirmières qui sont très infirmières, elles soignent bien les bobos, elles font très attention, elles accompagnent pour faire des IRM, etc., mais elles prennent un moment pour aller chanter avec les jeunes gens à Turbulence. Voilà. Mais quand elles vont chanter, elles chantent. Et puis quand elles sortent de là, elles sont infirmières. Hein, voilà. Exactement, monsieur, vous avez tout à fait raison, c'est ça. Ça crée des liens de confiance, des liens importants parce que je crois que c'est ce que tu disais, Philippe, c'est-à-dire que ces personnes-là, quand même, permettent justement de créer des liens entre des personnes qui peut-être ne se créeraient pas autrement. Elles ont cette faculté, ces personnes-là, de favoriser ça.
Il y a le micro
là-bas. Non, mais c'est juste. Enfin, je ne vais pas partir. Moi, je pensais en particulier à un autre domaine où c'est vraiment au cœur du soin, y compris de soins très. Du soin, aider une personne à se laver, etc., que si on n'utilise pas certaines techniques qui reposent sur des partages émotionnels, type se mettre à chanter, etc., on va à ce moment-là créer des situations où la personne qui ne peut pas comprendre qu'on est dans le soin risque de le prendre là de manière très différente, à savoir comme une agression parfois. Parce que le soin, ce n'est pas toujours sensoriellement ou émotionnellement agréable. Hein. Mais je pensais là vraiment à des catégories de personnes qui, voilà, dont les facultés cognitives sont fortement altérées. Hein. Mais c'est pour ça que je m'interrogeais sur ce rapport qu'il peut y avoir justement vraiment avec quelque chose qui est de l'ordre de... Alors peut-être n'appelons pas ça de l'art, mais en tout cas d'un partage émotionnel au sein même de certains soins pour l'aspect aussi motivation. Parce que je vois parfois des personnes qui ne vont pas parler avec l'orthophoniste, mais qui vont parler justement, entre guillemets, en sociothérapie après, si c'est dans le cadre d'un jeu à plusieurs patients, où là, elles ont une motivation pour parler, que finalement n'a peut-être pas su trouver l'orthophoniste, parce que l'orthophoniste n'avait pas cette clé-là, peut-être, émotionnelle ou motivationnelle. Hein oui. Voilà, c'est un peu toutes ces questions-là que j'évoquais.
Vous avez raison, je crois que de toute façon, ces personnes-là autistes ont des troubles de l'expression des émotions et ce qui était dit tout à l'heure, c'est qu'on a considéré longtemps que peut-être elles n'avaient même pas d'émotions, elles n'avaient que des crises, par exemple, mais en fait, non, il y a des émotions, il y a des interactions émotionnelles. Et effectivement, elles peuvent s'exprimer de manière différente, donc on peut les chercher et les trouver dans différentes situations, mais quand même, ça ne disqualifie pas le fait que ça s'exprime à certains moments, que quelqu'un peut exprimer sa parole dans un autre lieu que dans d'autres circonstances, ça ne va pas disqualifier le travail de l'orthophoniste, qui a une technique et un travail particulier, et au fond, je pense que... On est dans des domaines plutôt complémentaires qui ne s'opposent pas. Hein.
Mais justement, moi, c'est ce qui me paraissait intéressant, c'est que il s'agit de moments de vie de ces personnes-là et comme nous d'ailleurs, hein. Et que il y a un moment où effectivement on est dans l'ordre du soin, quel qu'il soit, et puis à d'autres moments, ce que vous faites là, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est bien créer du lien avec les autres, et parce que je crois qu'effectivement les autistes, mais il y a plein d'autres groupes de la population qui sont effectivement dans des phénomènes d'exclusion massif. Je pense aussi aux personnes âgées, enfin, genre, il est sensible à ça, ou même aux enfants normaux. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que je trouve cette expérience très intéressante, parce qu'elle dissocie effectivement du soin. C'est autre chose.
Oui, c'est un ailleurs, en fait, et on a fait de cette recherche du lien social un propos qui est vraiment une recherche artistique, avec une mixité des générations, avec une mixité des cultures, des populations et avec des turbulents. Mais on a réellement cette volonté, c'est en permanence ce que nous cherchons. Les expériences où en milieu urbain, récemment, on a pu associer un groupe de, là encore, du Café culturel de Saint-Denis qui a travaillé le slam avec une maison de retraite. Il y avait par ailleurs un graffeur, il y avait une jeune génération d'artistes. Et tout ce cocktail-là, on essaye, après une semaine de résidence, d'en faire une présentation publique. Et c'est véritablement le propos que nous cherchons, c'est-à-dire l'idée que, eh bien, à l'image d'une petite société, nous, on a ensemble d'autres choses à dire. C'est un ailleurs, mais en tout cas, on cherche ça en permanence. Avec les groupes à l'étranger aussi, où on confronte nos pratiques. Alors, dans les échanges de projets européens, c'est l'échange de bonnes pratiques, comme on dit, mais voilà, c'est ce qu'on on essaie de prendre ce qu'il y a de plus intéressant dans les démarches des uns et des autres, et surtout d'en faire, à travers des déambulations, une sensibilisation pour le monde extérieur. Quand vous parliez, monsieur, là, tout à l'heure, du relationnel, moi, il m'est venu à l'idée, j'évoquais tout à l'heure le travail que nous faisions avec les personnes qu'on accueille ponctuellement, qui ne sont pas autistes, hein, mais travaux d'intérêt généraux. Il est vrai que quand on a des ateliers avec eux, ils libèrent quelquefois la parole beaucoup plus facilement que si nous sommes des éducateurs de la PJJ, enfin de la protection judiciaire de la jeunesse. Et alors, et c'est vrai que ça crée des tensions formidables. Ou alors j'avais vu un psychologue africain qui parlait plusieurs dialectes et là il avait une file d'attente devant sa porte. Donc là c'est vrai qu'il y a des moments, quelquefois des outils qui permettent un relationnel. Mais bon, il est vrai que toute cette expérience que nous avons développée, nous avec Turbulence, elle ne pouvait avoir lieu que par ailleurs s'il y avait un véritable soutien et accompagnement au niveau du soin, sinon ça aurait été impossible.
Alors, c'est une question technique tout à fait. Mais est-ce que c'est reconnu, votre travail, par le ministère de la Santé et le ministre de la Santé ?
Alors, paradoxalement, oui, le ministère de la Santé, puisque après 16 ans de pratique, on a pu bénéficier, via des tutelles de l'État, d'avoir cette possibilité de créer un espace quotidien de travail. Mais paradoxalement, c'est le ministère de la Culture. Alors, on sait qu'il est un peu en souffrance. Mais là, c'est plutôt le ministère de la Culture qui, pour le compte, est un peu autiste.
Il y a d'autres non demandes de ah ouais.
Moi, j'aimerais savoir. Au travers du documentaire, on a vu deux types d'expériences. Donc, d'une part, l'atelier écriture, d'autre part, l'atelier théâtral. Enfin, comment est-ce que les artistes ont pensé ces actions ? Est-ce que vous, autour de l'atelier théâtral, vous êtes arrivé en disant on va plutôt procéder comme ça, ou est-ce qu'on est parti en disant bah, on va voir quelle énergie il y a dans le groupe et qu'est-ce que les jeunes mettent en place et à partir de ça, on va construire ? Ou est-ce qu'il y avait déjà une trame ?
Non, alors il n'y avait pas de trame préétablie. Dans le documentaire que vous avez vu, ça reflétait plusieurs expériences d'un réseau pour montrer bon, un panel de propositions qui permettent à des jeunes d'évoluer, etc. Et puis ensuite, on fait un bilan quelques années plus tard. Alors, par rapport à l'expérience que j'ai menée dans le cadre de l'atelier théâtre, puisqu'il s'agissait de ça au départ, je n'avais pas d'idée préconçue en dehors du travail que j'avais fait avec la troupe du Prateau Lilloise, un travail de rue particulièrement. Et moi, je me suis inspiré en fait des démarches d'Augusto Boal, qui est une personne qui a monté vraiment une démarche tout à fait passionnante au Brésil auprès des enfants des favelas, etc. Il avait créé aussi le théâtre de l'opprimé. Et comment faire en sorte qu'on puisse s'exprimer dans un contexte qui ne l'autorise pas. Donc moi, je suis parti avec ça, c'est-à-dire c'est des outils dans cette petite boîte à outils sans trame préétablie. Le seul axiome de base, c'était l'idée que ce travail serait dirigé vers le monde extérieur. Alors ça, c'était vraiment une nécessité absolue. Et de fil en aiguille, j'ai exploré, moi, globalement sur une première année, avec ces quelques outils. Je me suis rendu compte, par exemple, de l'intérêt du travail vocal pour certains d'entre eux. Et du coup, on a appelé des professionnels pour la voix. Et puis, lors d'un voyage en Chine, j'ai vu le travail du tai chi tous les matins avec des personnes handicapées, différentes générations. Je me suis dit, ça peut être bon pour nous. Et on a construit et développé au fur et à mesure de ce qu'on observait. En fait, on a tracé le chemin en avançant. Mais ça s'est construit et ça continue de se construire. Et on invite d'autres ressources humaines, des personnes et qui elles-mêmes aussi cherchent. On est sur un chantier en permanence. Et on est obligé de se questionner parce que on ne sait jamais comment les consignes vont passer, si elles sont comprises. On est obligé de trouver des artifices, c'est-à-dire que dans cette relation dite, je pense au chanteur tout à l'heure, dite pédagogique, eh bien, on est obligé de s'interroger en permanence. Donc là, on n'a pas de possibilité de se satisfaire d'idées préconçues. Alors le travail vocal, c'est vrai qu'à un moment donné, on avait un groupe au départ de 10 personnes. Il y avait 15 personnes, il y avait 9 nationalités représentées. Alors on est allé chercher, pour faire un petit retour sur le titre de cette réunion, sur la culture d'origine, et on est allé chercher des chants du monde, puisque aucun ne pouvait lire pratiquement, et que voilà, on était dans la tradition orale, et on est allé chercher des bribes de l'identité de la culture d'origine en allant comme ça chercher des chants du monde. Et ça, c'est devenu un atelier, et puis les ateliers se jouxtent, et à partir de là, et bien écoutez, ça donne un ensemble de choses avec lesquelles on essaie de construire et de faire prendre un petit peu la mayonnaise pour avoir quelque chose qui puisse être présenté et confronté à un public.
Oui, j'aurais deux choses à dire. La première, c'est que c'est des témoignages. Hein. La première, c'est j'entendais les questions et je pense que il faut travailler avec Philippe, Moïse et les autistes pour comprendre tout le travail que ces gens-là font auprès d'eux. La capacité qu'ils ont à comprendre les autistes, c'est quelque chose de formidable, quoi. Ça, moi, je leur dis un grand merci pour ça, parce que on a vu, et vous nous avez appris beaucoup de choses, on a vu votre capacité, quoi, à comprendre ces gens-là. Et c'est ça qui les fait avancer, c'est que ça. La deuxième chose, je vais me faire engueuler par ma femme, mais c'est pas grave, c'est que, tu sais, Philippe, il y a longtemps que ça me trotte dans la tête. Et en tant qu'élu, je te dis qu'aujourd'hui, si vous sentez qu'on peut vous apporter quelque chose, on est un petit noyau solide qui est capable de soulever des montagnes pour apporter du bien-être aux autistes. Voilà.
Oui, ben écoute, avec grand plaisir et très, très volontiers. C'est vrai que vous nous avez déjà apporté beaucoup. Et je me souviens des moments qu'on a vécu quand vous êtes venu sur le théâtre, au théâtre du Grand Paris, sur scène avec toute l'équipe de Jailly, ou quand vous êtes venu chanter avec nous sur la Nuit de la Voix au théâtre du Châtelet. Ça, c'était une chose, mais sachez que c'était hyper important pour un certain nombre d'entre eux de venir et de se ressourcer dans la campagne et à Jailly avec les individus dans des soirées vraiment toutes simples et extrêmement, là encore, conviviales. Je suis un peu vraiment obsédé en ce moment par ce mot-là, quoi. Je le cherche. J'ai d'ailleurs monté un projet qui s'appelle Les Conviviales, que j'avais repris à l'époque. Les Conviviales de mai, vous étiez venus, Jean, Ouverture Vraie, vous étiez venus. Ah non, Jailly, on ne connaissait pas encore. Et là, j'ai envie de le faire renaître parce que je me dis, il faut qu'on marque véritablement une nouvelle appropriation des territoires.